France Musique. Étonnez-moi, Benoît.
Aujourd'hui donc, honneur aux Zazous, avec d'abord Gérard de Cortance. Il vient de consacrer un roman à cette jeunesse qui, sous l'occupation, adorait les chansons swing et les films américains. Et pour faire revivre cette époque, j'accueille aussi effectivement un invité surprise, grande vedette de la radio et du music hall qui avait 19 ans en 1940. Gérard de Cortance et Monsieur X, c'est dans une dizaine de minutes. En fin d'émission, hommage à la cantatrice d'Eva Dassy. Mais pour commencer, mettons-nous dans le son, dans le ton swing de ce samedi Zazou.
La musique nègre et le jazz sont déjà de vieilles machines. Maintenant, pour être dans la note, il faut du swing. Le swing n'est pas une mélodie, le swing n'est pas une maladie. Mais aussitôt qu'il vous a plu, il vous prend, il vous lâche plus. Oh, je suis swing, je suis swing. Zazou, 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 c'est yeah. Je suis swing, oh, je suis swing. C'est fou ce que ça peut briser. Quand je chante un chant d'amour, je le pimente d'un tas de petits trucs autour. Je suis swing, je suis swing. Zazou, zazou, c'est gentil comme tout. Afin de chanter à l'opéra, j'allais voir le directeur. Je voulais chanter la Traviata en ré majeur. Il m'a d'abord interrogé, est-ce que vous êtes ténor léger, basse chantant ou baryton? J'ai répondu, ah mais non, je suis swing, je suis swing. Zazou, 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 c'est yeah. Je suis swing, ah, je suis swing. C'est fou ce que ça peut me viser. Quand je chante un petit refrain, j'épouvante la concierge et les voisins. Moi, je suis swing, zazou, zazou, je suis heureux comme tout. J'ai pour maîtresse Béatrice, je suis le père de son enfant. Avec Simone, j'ai eu deux fils en un rien de temps. Le mois dernier, avec Zouzou, j'ai eu quatre enfants d'un seul coup. C'est pas que je le fasse exprès, seulement qu'est-ce que vous voulez? Je suis swing, je suis swing. Zazou, 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 yeah. Je suis swing, oh, je suis swing. C'est fou ce que ça peut me briser. Un spirit me l'a révélé. C'est le rythme qui fait ainsi m'emballer. Oh, je suis swing, zazou, 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 je m'amuse comme un fou.
Voilà, et là on était un petit peu avant la guerre en 1938 avec ce grand succès de Johnny S. On en reparlera tout à l'heure avec mes invités. Ce qui est important, c'est que voilà, il y avait déjà cette référence un petit peu au style de Cab Calloway qui était le grand modèle des Zazou. D'ailleurs, on l'entendra aussi tout à l'heure, le mot même Zazou vient d'une chanson de Cab Calloway dont on avait un écho dans cette chanson précédente de Johnny S. Alors on le retrouve tout de suite justement, ce modèle des Zazou, Monsieur Cab Calloway.
Tipoodle yak, tipoodle yak, saggy, orang tang tatty. Gonna tell you about the jumping jive. Jim Jim jump the jumping jive. Cat's gonna beat out this mellow jive. Beat it out on the male side. Shalimar, Swanee Shore. Let me dig that jive once more. Boy,
right on down to
oh, boy.
Gotta be the
now, can't you hear those hep cats call?
Yeah.
Come on, boys, let's have a ball.
The jim, jim, jump is the jumping jive.
Makes you dig your jive on the mellow side. Hep, hep. Hep, hep.
Jive.
Makes you 9 foot tall when you 4 foot five. Hep, hep.
Hep, hep.
Now don't you be fat, Ikaroo. Get hep, come on and follow through. Then you get your steady foo.
you make the joint jump like the gators do.
The dim, dim, jump is the jumping jive.
Makes you like your eggs on the Jersey side. Hep, hep. Hep, hep. The jim, jam, jumping jive makes you hep, hep on the Miller side. Hep, hep. Hep, hep. The dimma dimma jump is the solid jive will make you 9 foot taller when you're 4 foot 5. Hep, hep. Hep, hep. Don't you be that rickaroo, get hep, come on and follow through. Then you get your steady foo, you make a joint of jumping like gators do. The dim dim jump will make the jumping jive makes you like your egg is on the chest. The jim jam jumping jive makes you hep hep on the man aside. Tibbly boodly 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 diddly doodly diddly going 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 da-da. Now I told you about the jumping jive. Jim jam jump the jumping jive. I know you dug this melody jive. Boom, you dig it on the man aside.
Le grand Johnny Hess, un petit peu avant la guerre, là, c'était en 1939 dans cette chanson The Jumpin' Jive. Alors, on va reparler tout à l'heure de Cab Calloway parce qu'il n'était pas seulement l'inventeur, on peut dire, du style zazou en musique, mais aussi du style zazou vestimentaire. On en parlera tout à l'heure avec mes deux invités. Et restons encore un peu dans les années d'avant-guerre avec l'opérette viennoise que je vous propose en ce moment chaque semaine à travers l'évocation d'un compositeur. On parle depuis quelques semaines des compositeurs plutôt modernes du XXe siècle de cette opérette viennoise. On a évoqué par exemple la semaine dernière Emmerich Kallmann. Je voudrais aujourd'hui vous faire entendre deux pages de Paul Abraham, un merveilleux compositeur qui est un peu le moderne alors de l'opérette viennoise à la façon d'un Maurice Yvain, c'est-à-dire qu'il mélange l'esprit du musical, du jazz naissant de Broadway et celui de la tradition viennoise. Tout ça se fond dans sa musique. Je vous recommande d'ailleurs d'aller sur internet si ça vous amuse. Il y a des extraits d'opérettes de Paul Abraham dans des émissions de télévision allemande des années 60 avec un goût un peu spécial. C'est assez amusant à regarder. Et également dans l'enregistrement qu'on va écouter maintenant, au fond, ce sont ces voix de l'époque, toujours des années 60, enregistrées dans des compilations de la radio allemande ou de petits orchestres voilà, qui proposaient des condensés des opérettes. On va écouter deux pages de Victoria et son hussard, le grand succès de 1930 de Paul Abraham. D'abord « Pardon Madame » chanté par Rudolf Schock et puis ensuite un petit duo justement beaucoup plus musical chanté par Liselotte Ebnett et Freddy Gruber.
Mausi, süß warst du heute Nacht?
Heute Nacht, heute Nacht.
Nach dem Souper.
Dem Souper, dem Souper.
Im Separé. Mausi, was haben wir gemacht?
Wir gemacht, wir gemacht.
Wenn ich dran denk.
Wenn du jetzt daran denkst.
Dann muss ich lachen.
Du wolltest immer so zum Spaß. Na ja, du weißt schon was. Komm, ich sag dir, sie ins Ohr.
Mausi, süß warst du heute Nacht.
Heute Nacht, heute Nacht.
Bis früh um 8.
Haben wir gelacht.
Ah, cette bonne humeur allemande, voilà, c'était deux extraits de Victoria et son hussard chanté par Rudolf Schock, Liselotte Ebnett, Freddy Gruber, l'Orchestre Symphonique de Berlin sous la direction de Werner Schmidt-Boel, que Paul Abraham, voilà, il faut réécouter ses œuvres, Victoria et son hussard, mais aussi Fleur de Hawaï, Balim Savoy, Paul Abraham qui a dû s'exiler pendant toute la période nazie, qui a vécu assez difficilement aux États-Unis, puis qui est rentré en Allemagne où il est mort en 1960. C'est un des grands compositeurs de musique légère du XXe siècle. Le National Philharmonic Orchestra sous la direction de Richard Boninge dans ce Pas des patineurs, un des grands succès oubliés de Monsieur Meyerbeer, presque aussi oublié que les chansons Zazou dont nous allons parler maintenant avec mon invité Gérard de Cortance qui vient d'écrire un roman Zazou justement sur toute cette période de l'occupation et puis en compagnie aussi d'un invité surprise qui a été un Zazou, enfin presque, enfin il nous le dira dans quelques minutes, il va nous rejoindre également. Nous voici donc aujourd'hui en compagnie des chansons swing sous l'occupation.
Jusqu'ici sur Terre, un homme pouvait être blanc ou noir ou jaune ou rouge, et puis c'est tout. Mais une autre race est en train d'apparaître, c'est les Zazous, c'est les Zazous. Un faux col qui monte jusqu'aux amygdales, avec un veston qui descend jusqu'aux genoux. Les cheveux coupés jusqu'à l'épine dorsale, voilà le Zazou, voilà le Zazou. Il y a des Zazous dans mon quartier. Moi je suis déjà à moitié. Avant votre tour, un de ces jours. Vous serez tous azous comme eux, car le azous c'est contagieux. Ça commence par un tremblement qui vous prend soudain, brusquement, et puis on pousse des hurlements. Si vous rencontrez un jour sur votre passage un particulier coiffé d'un fromage mou, tenant dans ses doigts un poisson dans une cage, c'est un azou. C'est un azou. Si votre épicier vous dit j'ai du gruyère, mais malheureusement il ne reste que les trous, eh ben ne supposez pas qu'il fuit de la cafetière. Il est azou, il est azou, il y a des azous dans mon quartier. Moi je suis déjà à moitié. Un de ces jours ça vous prendra. À son futur gendre avant-hier, ma concierge disait, voyez-vous, ma fille est un bijou. Elle est encore mieux que si elle était vierge. Elle est azou. Elle est azou. Et en prenant le train, j'ai vu le chef de gare qui m'a dit, mon cher, je suis plus cocu du tout. Je suis quelque chose de beaucoup plus rare. Je suis azou. Je suis azou. Il y a des azous dans mon quartier. Moi, je suis déjà à moitié. Un de ces jours, ça vous prendra. À la société, devant payer sa dette, devant la guillotine, Gégène a dit, je m'en fous. Il y a déjà longtemps que j'ai perdu la tête. Je suis azou, je suis azou. Avec une mondaine de la place Pigalle, mon ami Léon a fait les 400 coups. Ça lui a réussi, car pour ses 25 balles, il est azou, il est azou. Il y a des azous dans mon quartier. Moi je suis déjà à moitié. Et à mon tour, un de ces jours, on finira par m'amener dans un asile d'aliénés. Entre azous, on s'y retrouvera. Et c'est fou ce qu'on rigolera quand sous la douche mon chanteur a comme ça.
Et nous sommes là donc en janvier 44, un peu avant la libération, avec cette chanson d'Andrex. Bonjour à Gérard de Cortance.
Bonjour.
Chanson Zazou ou parodie de chanson Zazou?
Parodie de chanson Zazou.
Parodie de chanson Zazou. Il en fleurissait à l'époque. Vous les évoquez, ainsi que les vraies chansons Zazou, dans votre livre qui vient de sortir, dans votre roman Zazou. Je veux dire, Gérard de Cortance, on avait déjà eu le plaisir de parler de musique et de chansons ici même ensemble, mais j'étais très content et surpris en même temps que vous consacriez un si important livre et travail aux Zazou. Je me suis dit, bon, il est né quelques années après la guerre, peut-être que ses parents avaient été Zazou.
Ma mère était un des piliers du Balajo, elle était Zazou, elle dansait, et mon grand-père, maçon napolitain.
Voilà, côté italien, oui.
Côté italien, jouait de l'accordéon dans les bals du samedi soir. Et il me racontait toujours que, bien que les bals et les dancings soient interdits, d'où la naissance des surprises parties, c'est-à-dire les bals et les dancings chez soi, en quelque sorte, eh bien, il a joué absolument tous les soirs, un peu partout, dans toute la France, avec son accordéon et son orchestre.
Et donc, bon, c'est une des raisons, mais enfin, j'imagine le sujet a peut-être trotté longtemps dans votre esprit.
Alors,
pourquoi vous êtes mis comme ça, tout d'un coup, à vous lancer dans un grand roman sur les azous?
Je pense peut-être à tort que les écrivains ont un rôle. Ouais. Et j'imagine que le rôle des écrivains, c'est d'aller chercher des sujets qui n'ont jamais été traités, ou de remplir peut-être les trous de l'histoire. Donc on les rebouche, en quelque sorte. On remet les choses à l'ordre du jour. Et me semble-t-il, les azous, on les a totalement oubliés. En plus, on a tendance quand même à mélanger un peu tout.
Oui, la politique s'en mêle, on y viendra
bien
tout à l'heure.
Bien sûr, et en gros, on explique les azous, oui, c'est la fin de la guerre, c'est Juliette Gréco, Boris Vian, c'est Saint-Germain-des-Prés, et c'est l'existentialisme.
Alors,
comme
bien
je dis souvent, Sartre n'était pas azou. Bien, donc les azous, à mon sens, et à la suite de ces recherches, c'est très situé dans le temps.
Ouais.
C'est-à-dire, ce sont des jeunes gens et des jeunes filles qui ont 13, 14, 15 ans quand les Allemands envahissent Paris en juin 40, qui deviennent majeurs, parce qu'ils ont 21 ans, à la fin de la guerre, et qui sont adultes, et qui passent à autre chose. Et les azous s'arrêtent.
Alors, Gérard de Cortance, on va évidemment revenir longuement au sujet Zazou. Ce qui me fascine aussi, c'est que bon, vous avez beaucoup publié. Hein. J'étais impressionné d'ailleurs par la page du même auteur.
Vous allez dire que c'est trop, c'est
non,
ça?
Non, enfin, dites-moi combien de livres à ce
80.
Jour 80.
Mais mon but, c'est de dépasser les 100.
Votre but est de dépasser.
Butor a bien dépassé les 100. Donc
moi, je n'y vois aucun inconvénient. Ce que je veux simplement dire, c'est que ce qui m'a impressionné, parce qu'en général, quand on écrit justement beaucoup de livres, on pourrait s'imaginer qu'on les écrit à la va-vite, mais c'est un travail de documentation absolument impressionnant que votre livre. C'est presque un livre d'histoire. Il y a énormément de détails.
Ah oui.
Comment est-ce que vous avez
c'est-à-dire
fait cette recherche?
Mon plaisir d'écriture, d'abord, j'écris non pas à la va-vite, mais rapidement, ça j'y tiens. Mais en revanche, il y a toujours un travail de préparation.
De documentation.
De documentation.
Donc, parler.
Et qui me fascine. À chaque livre, il y a toujours une documentation. Et là, sur les azous, La documentation essentielle, c'était les journaux d'époque.
Ouais.
Alors, c'est terrible. C'est à la fois, comment dire, passionnant, et en même temps, on en sort complètement fracassé, détruit, comme si on avait été rossé, parce que c'est l'horreur totale.
C'est une période difficile.
C'est une période, non mais c'est répugnant.
Certes.
Vraiment, c'est quand même, c'est très dur. Mais, à la fin, vous avez une masse de documents, et l'idée, c'était de raconter cette guerre, essentiellement à Paris et dans un quartier qui est le 14e arrondissement, le nez sur l'avènement, et de le raconter vu par des adolescents, qu'on n'appelle pas encore des adolescents, hein, mais vu par des adolescents de 14-15 ans, donc qui ont une image, comment dire, quotidienne, relative, parcellaire, de la guerre. Je ne voulais pas analyser la guerre avec ce qu'on en sait aujourd'hui.
Oui, bien sûr.
Ça donne un livre assez étonnant parce que je crois que ça au fond, ça n'a jamais été fait.
On découvre les choses au fur et à mesure avec vos personnages.
Donc, voilà.
On va y revenir dans un instant. Je propose qu'on écoute tout de suite. Alors là, avant, c'était la parodie de chanson Zazou. Maintenant, c'est la vraie chanson Zazou. C'est un des. On peut dire que c'est peut-être le chanteur emblématique des Zazou, Johnny S.
Ah oui, bien sûr.
Carrément,
bien sûr.
Oui. Voilà.
Johnny S, on en parlera après. On l'écoute et on en parle.
Les cheveux tout frisottés, le col haut de 18 pieds. Ah, ils sont zazous. Le doigt comme ça en l'air, le veston qui traîne par terre. Ah, ils sont zazous. Ils ont des pantalons d'une coupe inouïe qui arrivent un peu au-dessus des genoux. Et qu'il pleuve ou qu'il vente, ils ont un parapluie, des grosses lunettes noires et puis surtout. Ils ont l'air dégoûtés de tous ces petits agités. Oh, mais ils sont zazous. Un jour, un brave notaire de son pays débarquant venait pour de grosses affaires de legs et de testament. Il avait l'allure très digne, mais comme les modes de maintenant ont à peu près la même ligne que celle de 1900. De jeunes zazous s'écrièrent en l'apercevant. Ce qu'il fait distinguer son col haut de 18 pieds. Oh, puisqu'il est zazou. Il a ce brave notaire, le veston qui traîne par terre. Oh, puisqu'il est zazou. Il ne se doutait pas, ce très digne notaire, qu'il pouvait être à ce point zazou. Car tous ses vêtements lui venaient de son grand-père, le col de veston et tout. Il fut tout étonné de se voir ainsi remarqué par tous les zazous. De retour chez lui, le notaire sidérait tous ses amis. Il ne marchait que le doigt en l'air, mais bientôt ce fut bien pis. Cette maladie prit sa fille, sa femme, son clerc, son toutou. Enfin toute la famille, tout le monde devint zazou. Dans le pays, quand ils se promenaient, on les croyait fous. En les voyant passer, les braves gens s'écriaient, tiens, voilà les zazous. Après mûre réflexion, le docteur en consultation dit, mais ils sont zazous. C'est une maladie un peu particulière, bientôt il n'y paraîtra plus rien. Avec une bonne cure de polka de nos grands-mères, puis se regardant, il dit, tiens, mes cheveux tout frisottés, mon col haut de 18 pieds, mais je suis zazou. Tout comme le notaire, mon veston traîne par terre, mais donc, mais je suis zazou. Et si ce n'est qu'une question vestimentaire, je suis le plus zazou d'entre nous. Car ma redingote traîne jusque par terre, je ne vois qu'à remettre en coupe et tout. Docteur avait compris que là se tenait l'esprit de tous les zazous.
Johnny S, un des chefs de file de la chanson Zazou, sinon le, je reviens à la question, Gérard de Cortance, parce que la chanson, évidemment, et comment faire autrement dans un livre sur les Zazous, elle est très importante dans votre livre. Les chansons sont utilisées, les paroles des chansons, les références, et ponctuent un petit peu l'histoire que vous nous racontez.
Oui, c'est pour ça qu'on a publié en parallèle au livre un
double CD, donc, absolument, avec plein de chansons Zazou.
Voilà, parce qu'en fait, c'est la bande-son du livre, et moi je recommande aux lecteurs, évidemment, de lire le livre en écoutant
les
musiques swing et zazou et jazz de l'époque.
Voilà.
Parce qu'il y a aussi le jazz qui est très important.
C'est très lié puisque c'est l'influence américaine, mais...
Alors, justement, vous avez passé Johnny Hess. En fait, historiquement, hein, ça peut être contesté, mais enfin, on est à peu près tous d'accord maintenant là-dessus. Cap Calloway, hein, il donne un concert à Paris, il chante Zazou Zazouzaï à Payel.
Vous allez voir, j'ai un petit document là-dessus tout à l'heure.
Succès. Très bien. Johnny Hess, qui vient de se séparer de Trenet, le duo, il chante Je suis Swing, qu'on a entendu, c'est 37-38, je crois. Ça, et à partir de là, bon, là, il y a une... Mais ce qui est intéressant quand même dans, chez les Zazou, c'est que les Zazou, on en retrouve dans toute l'Europe.
Ouais.
Et notamment, il y a un mouvement Zazou très important en Allemagne, Hambourg, qui s'appelle les Swing Kids. Et ça, dès 34.
Alors, c'est amusant, bah, vous permettez en même temps des petits clins d'œil. Comme ça, par exemple, une de vos héroïnes s'appelle Josette. Et Josette, c'est aussi le titre d'une chanson, enfin d'un morceau de swing,
morceau de
jazz français swing de l'époque, avec toute la bande des Reinhardt, de Gus Wieser, etc.
Ils sont tous là. Il y avait quand même des orchestres, mais extraordinaires. Ouais. On n'a jamais autant joué. Il y avait des clubs de jazz, des concerts, des concours. Le développement du Hot Club de France à l'époque, c'est absolument fantastique.
Paradoxe de l'occupation, on n'a jamais joué autant de musique américaine. Mais ça, on va y revenir aussi. Ouais. Dites-nous quand même, en quelques mots, c'est pas facile de résumer, parce que c'est un gros livre avec beaucoup de personnages, mais donc vous avez construit vraiment ça autour d'une petite bande, hein, dont on suit l'évolution, et ils s'appellent effectivement Josette, Pierre, Jean. Les uns sont lycéens, les autres sont déjà un petit peu entrés dans la vie active.
Là encore, en travaillant sur ces archives, le point de départ, on dit que les Zazou sont des bourgeois.
Ouais.
Bon, alors bon, pourquoi pas. Bon, donc je fais les recherches. En fait, je m'aperçois que pas du tout. C'est-à-dire, c'est toutes les classes sociales, donc qui figurent
dans cette petite bande.
Dans la petite bande, ils sont une dizaine, hein, cinq garçons, cinq filles. Ce qui les réunit, en quelque sorte, c'est leur âge.
Ouais.
Et leur âge, donc, avec une volonté farouche qu'on ne confisque pas leur enfance, leur jeunesse, même si en face. Il y a la barbarie qui est présente. C'est ça le nœud du livre. Donc chacun, effectivement, a une destinée. Hein, parce que c'est un peu comme une série télévisée. C'est-à-dire qu'on suit chaque personnage. Il se retrouve, il se sépare, il se retrouve avec un personnage central qui est cette jeune fille.
Josette.
Josette, qui est amoureuse d'un soldat allemand. Mais ce soldat allemand est aussi un Zazou allemand.
Exactement.
Des Swing Kids.
Voilà. D'ailleurs, le livre, c'est ça, une de ses qualités, n'est pas du tout manichéen. Hein. Vous n'essayez pas de faire un livre des bons contre les méchants,
non.
Ni de faire des Zazou, ni spécialement des purs résistants, ni spécialement des collaborateurs.
Absolument.
C'est compliqué. Et on le sent dans le livre. Ça, c'est très réussi. Mais moi, je vais vous faire une surprise maintenant.
J'espère qu'elle est bonne.
J'espère aussi. Écoutez, voilà, je me suis dit, quand on a décidé de faire cette émission, ce qui serait formidable, c'est d'avoir avec nous un Zazou. Et puis en même temps, les années passent, les Zazou, ils sont plus tellement nombreux. En tout cas, ceux qu'on connaît, ceux qui sont éventuellement connus du public. Et puis, tout d'un coup, une idée m'est venue. Voilà, il y a quelqu'un qui adorait la musique américaine, qui chantait pendant la guerre. Je ne sais pas s'il était Zazou, mais il ne devait pas être très loin. Je lui ai téléphoné. Je lui ai demandé de venir avec nous aujourd'hui.
Avec son orchestre ou...
Presque. En tout cas, il est là. Je suis très content. J'ai le plaisir aujourd'hui pour vous, Gérard de Cortance, d'accueillir Zappy Max.
Regardez venir à toute vitesse le petit train qui fait le circuit du Far West. À coup de sifflet joyeux, il s'en va du Texas par l'Oregon jusqu'en Arizona. Tous les voyageurs sont déjà prêts, car on le sait exact à deux ou trois jours près. Il emporte Indiens, trappers et gauchos, de l'Utah par le Kansas jusqu'au Colorado.
Le voilà !
Mais qu'est-ce qu'on aperçoit ? La vache au vieux Jimmy qui est couché sur la voie. Oh, on s'arrête pour souffler un peu. Chacun dans le wagon se hisse comme il peut. Et puis l'on repart carin-cara du Texas par l'Oregon jusqu'en Arizona.
En voiture!
Ce n'est pas un rapide ni un express, le petit train qui fait le circuit du Far West. Il préfère planer de ci, de là, du Texas par l'Oregon jusqu'en Arizona.
Mais comme l'un sur l'autre, ils sont tassés. Garçons et jeunes filles ne sont pas pressés. Ils se forment ainsi de gentils duos, de l'Utah par le Kansas jusqu'au Colorado.
Et voilà !
Les demoiselles font les yeux doux.
Les jeunes gens les prennent alors sur leurs genoux. se parer. Un chin contre un fidèle, qu'ils vont en arrivant descendre au même hôtel. Tous dont le cœur s'abandonna, du Texas par l'Oregon jusqu'en Arizona.
Du Texas par l'Oregon jusqu'en Arizona.
Arizona City, tout le monde descend.
Le petit train du Far West, l'orchestre de Jacques Elian avec Zappy Max. Bonjour Zappy.
Bonjour Benoît, bonjour Monsieur de Cortanze, bonjour les Azous.
Bonjour les Azous. Là en tout cas c'est juste après la guerre, mais c'est une chanson d'inspiration américaine. C'est ce goût de l'Amérique, c'était un...
C'est tiré d'un film, et c'est dans le film c'est Judy Garland qui l'interprète.
Voilà, et en tout cas voilà, c'est quelque chose qui vous rapproche sûrement des Azous, c'est ce goût que vous aviez de tout ce qui venait des États-Unis. Mais est-ce que donc allons directement droit au but, cher Zappy Max. Est-ce que vous avez été Zazou ?
J'ai vécu la période Zazou, j'ai côtoyé les Zazou, j'ai dansé avec des filles Zazou, mais je n'ai jamais porté la veste longue jusqu'aux genoux, je n'ai jamais porté la veste épaulée, on avait l'impression qu'il y avait encore le cintre à l'intérieur, et
vous trouviez
je
ça
n'ai
ridicule ?
Jamais eu la banane.
Je lis d'ailleurs à ce propos, Zappy Max, c'est dans le livre de Gérard de Cortanze, justement, la description est assez précise. Ils sont tous porteurs de la tenue Zazou, ample veston à carreaux jusqu'aux cuisses, comme vous venez de le dire, pantalon étroit.
Pas forcément à carreaux, mais enfin, c'était bien.
C'était bien. Pantalon étroit à large revers, gros souliers non cirés, col souple de la chemise maintenu par une petite épingle transversale, cravate très fine aux nœuds extrêmement serrés, lunettes noires et parapluie chamberlain. Enfin,
c'est... Et la banane.
En tout cas,
pour nos amis qui peut-être ne sont pas au courant de ce qu'est une banane, c'est une mèche de cheveux qui vient sur le devant du front, etc. Un peu comme Elvis Presley.
Voilà. Zappy Max, merci d'être une nouvelle fois avec nous. Vous êtes, je n'ai pas besoin de le rappeler, une des plus grandes vedettes, notamment de la radio française des années 50, 60, à Radio Luxembourg, on le sait, et puis de la chanson aussi avec l'orchestre de Jacques Elian. Mais vous pouvez aujourd'hui nous apporter un témoignage direct sur cette époque des Zazou. Je précise d'ailleurs parce que vous avez commencé, vous, à monter des petits groupes avant la guerre. Et donc, je le redis, vous aviez ce goût quand même commun avec les Zazou, cette passion de tout ce qui venait d'Amérique.
Voilà, la zazouterie, si j'ose inventer cet euphémisme. La zazouterie a débuté non pas pendant la guerre, mais avant la guerre.
Ouais.
Elle a surtout débuté quand la guerre a été déclarée en 1939 et que le gouvernement a décidé de ne plus permettre les dancings. Les dancings devaient être fermés pendant que nos valeureux guerriers étaient en train de faire le pied de grue dans la ligne Maginot. Il était normal que le civil soit, comment dirais-je...
Digne.
Sérieux et digne.
Ouais.
Alors il s'est passé la chose suivante, c'est que des groupes se sont formés pour faire des clubs.
Ouais.
On a inventé les clubs.
Ouais.
Les clubs, c'était autour d'un petit orchestre, souvent, voire des disques avec un électrophone.
Vous citez dans votre livre le Tiger Rag Swing Club,
exactement,
le Parnasse Club.
Venir, le Tiger Rag Swing Club, on était là. Et nous nous réunissions au hasard la fourchette, dans des sous-sols de brasserie, dans des salles, enfin de n'importe où. Ce qu'il fallait surtout, c'était qu'on ne soit pas pris en flagrant délit de danse.
Ouais.
Et c'est à ce moment, enfin ça a coïncidé tout au moins, c'est peut-être pas le résultat, mais ça a été la cause, ça a coïncidé avec cette mode nouvelle.
Ouais.
Qui était une mode de réprobation contre l'interdiction de la danse. Et lorsque l'occupant est arrivé, alors là, c'est devenu une position anti-occupant avec la volonté de se montrer. Les morceaux de swing de l'époque, c'était la Marseillaise à tous les étages.
Absolument. Gérard de Cortanze, quel effet ça vous fait de rencontrer notre cher Zappy Max ?
Je suis très ému. C'est un personnage de mon roman qui arrive vivant, chair en os. Je suis sans voix.
Voilà. Alors, Zappy Max, donc effectivement, à l'époque, vous montiez des petits groupes, notamment des groupes d'harmonica.
Il y avait un ensemble américain qui s'appelait Boraminovitch et ses vagabonds, que j'avais vu dans un film avec Sonia Hennie, La Tourbillon Blanc, quelque chose dans ce goût-là. Et j'avais été frappé par cet ensemble d'harmonica. Alors, comme je faisais de l'harmonica en amateur...
Ouais.
Lorsqu'en 40, je suis revenu d'Exode et que j'étais sans boulot, je me suis dit, pourquoi ne pas monter un ensemble d'harmonica ?
Voilà.
Alors j'ai monté les 5 Mathurins. Et pourquoi les 5 Mathurins ? Parce que j'imitais Mathurin Popeye comme, comment dirais-je, indicatif du numéro lorsqu'on pensait...
Vous ne voulez pas nous le refaire une fois ?
Non, je vais essayer, mais il y a longtemps que je ne l'ai pas fait. C'est « I'm Popeye the Sailor Man, I'm Popeye the Sailor Man, I like the spinach and that spinach, I'm Popeye the Sailor Man. »
C'était important que vous le fassiez en anglais, parce que ce que dit Gérard de Cortance dans son livre, qui est juste, je crois, historiquement, mais jusqu'à quel point, je ne sais pas, c'est que, en gros, l'anglais, et notamment les titres en anglais, c'était pas trop bien vu pendant la guerre. On francisait tous les titres.
Oui, Tiger Hag était devenu la rage du tigre.
Voilà.
Et Lady Bigood.
La Bigoudi.
Les Bigoudis.
La Bigoudi.
Alors, on expliquait même que le jazz, évidemment, ne pouvait pas venir des États-Unis. Surtout après l'entrée en guerre des États-Unis.
Le jazz n'était pas américain.
Non, le jazz était français, ça venait de la Bourg-Auvergnate et surtout des Antilles. Et alors, à ce moment-là, c'était accepté parce que c'était le folklore national.
Vous partagiez, Zappy Max, avec les Azous, l'admiration pour Cab Calloway ?
Cab Calloway, Benny Goodman, Count Basie, tous les grands big bands de l'époque.
Alors, on va écouter un tout petit document, ça dure 30 secondes, mais c'est une émission de radio d'après-guerre, et les animateurs de l'époque reçoivent justement Cab Calloway, et ils évoquent ensemble justement cette utilisation du zaz de Cab Calloway qui va donner zazou.
Est-il vrai que Cab Calloway a lancé la mode des zazous ? C'est peut-être vrai, cette mode des zazous, parce que dans une chanson, il chantait...
Zazou, 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 zazou,
zazou, zazou, zazou, zazou, zazou,
c'est-à-dire
qu'il a lancé, par ses vocalises, il a lancé le mot zazou en employant ce zazou, 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 et c'est lui qui, en effet, a lancé la mode vestimentaire des vestes très longues, des pantalons serrés dans le bas, des grands chapeaux, des nœuds filiformes, etc.
Et c'était donc Josette, ben voilà cette chanson Gérard de Cortance, enfin ce morceau de jazz avec tous les jazzmen de l'époque, Jean Reinhardt, le quintet français, je crois Gus Wieser à l'accordéon. Ce cher Gus Wieser que vous citez souvent, vous m'avez fait plaisir dans le livre.
Ah oui, bah oui, bien sûr.
Non mais c'est assez rare chez les écrivains français d'aujourd'hui de voir quelqu'un
mais
qui connaît Gus Wieser.
Je ne suis pas un écrivain français normal. Voilà.
Ah bon,
j'aime l'automobile, j'ai fait du sport, je suis d'origine italienne, donc je ne suis pas un écrivain français.
Alors ça c'est plutôt le versant jazz. La chanson swing, le jazz, c'est pas tout à fait les mêmes mondes. Ils se regardaient pas forcément avec un grand amour, d'après
non,
ce que
non, d'ailleurs, il y a des textes, c'est assez troublant d'ailleurs. Il y a des textes de Boris Vian,
ouais.
Qui vraiment, n'est, pour le coup, n'est pas zazou, contre les zazous, mais d'une violence.
Ouais.
Et d'ailleurs, parfois, il reproche les mêmes choses que les textes publiés dans Je suis partout, dans le pilori, contre les zazous.
C'est-à-dire que ces petits zazous, on a un peu l'impression, j'ai posé tout de suite la question à Zapimax, mais qu'ils avaient un peu tout le monde contre eux. C'est-à-dire que les résistants les regardaient comme des gens un peu trop futiles et à la limite collabos. Les collaborateurs les regardaient comme des gens qui aimaient trop l'Amérique et la musique noire, etc. Et finalement, ils étaient un peu mal vus de tous les côtés.
Bah, ils étaient entre l'arbre et l'écorce.
Entre l'arbre et l'écorce, oui.
Oui, parce que sur le plan politique, ils n'étaient... Je l'ai dit tout à l'heure, ils étaient anti-occupants peut-être,
oui.
Mais pas résistants, pas du tout résistants. Et en plus de ça, ils ne s'occupaient pas de politique à proprement parler. Quoi. C'était contre l'ennemi avec un grand E. Et...
C'était la joie de vivre contre l'austérité du temps aussi.
Oui, l'habillement était une façon de protester. C'est ce qui a été décrit par M. de Cortance dans son livre. Et ce que j'ai décrit également, c'était vraiment l'uniforme de l'anti-occupant.
Et d'ailleurs, dans votre livre, Gérard de Cortance, on voit ces espèces de manifestations subtiles et pacifiques qui jalonnent quand même la guerre et auxquelles participent vos jeunes azous. C'est d'abord le rendez-vous du 11 novembre 1940, qui est aujourd'hui mieux connu, dont on a peu parlé à l'époque. Ce sont ces V qu'on dessine un peu partout. Ce sont ces petites couleurs bleu, blanc, rouge qu'on a sorties dans ces vêtements. Alors peut-être vous les rendez un peu plus résistants qu'ils ne sont, vos jeunes gens, mais en tout cas, vous les associez directement à tous ces épisodes.
Le simple fait, comment dire, de faire ce qu'ils font, c'est une forme de résistance,
en fait.
Par exemple, on a mis en couverture de livre, c'est très subtil, hein, on a mis en couverture de livre une jeune femme qui est sur une bicyclette.
Absolument.
Vous la regardez bien, elle est en pantalon. Il y a une loi à l'époque qui interdit aux jeunes femmes, lorsqu'elles sont sur une bicyclette, de porter un pantalon.
C'est vrai, vous le dites dans le livre.
Il y a une loi qui les oblige à porter une jupe. Donc, c'est une forme de résistance.
Ouais.
Et puis, il y a des résistances réelles. C'est-à-dire que lorsque, au moment de la 8e ordonnance allemande, nazie, juin 42, le port de l'étoile jaune, je rappelle d'ailleurs qu'on demandait aux citoyens juifs d'acheter le coupon de tissu dans lequel ils avaient découpé le voilà. C'est quand même...
C'est particulièrement sordide. Ouais,
voilà. Oui. Et là, c'est vraiment les Azous qui décident ça. Et ils ont 14-15 ans, je le rappelle. Ils découpent dans des morceaux de tissu de toutes les couleurs des étoiles sur lesquelles ils écrivent swing, bouddhiste, jazz. Ils descendent dans la rue. Il y a une énorme manifestation, comme ça, spontanée. Hein. Il n'y a pas d'iPhone à l'époque. Il n'y a pas qui grossit au fil de la journée. Il y en a 450 qui sont arrêtés. Sur les 450, il y en a un certain nombre qui ne reviendront jamais. Et de toute façon, ceux qui sont restés à Drancy pendant plusieurs mois se sont promenés avec sur la poitrine une pancarte pendant toute la durée de leur séjour sur laquelle il était écrit « Amis des Juifs ». Et bien ça, si ce n'est pas de la résistance... Je suis presque ému en parlant de ça, vous voyez, parce que vraiment, imaginez des enfants qui descendent dans la rue avec ce courage-là, chapeau.
Zapimax, pour vous, cette période, à Paris, c'est plutôt d'ailleurs la première partie de la guerre, parce qu'après, vous êtes mobilisé, si j'ose dire, pour le STO, vous êtes obligé de vous cacher, vous entrez dans la clandestinité.
Je suis resté à Paris, disons en France, parce qu'il y avait quand même des petites tournées artistiques qui se montaient. Mais je suis beaucoup resté à Paris jusqu'en 1943, lorsque le STO a dissous le numéro.
Voilà. Et dans cette période, alors, vous rencontrez tout un tas de personnages. Par exemple, la toute jeune Micheline Prel, avec qui vous dansez, le swing.
Oui. À la Saint-Sylvestre de 1939, dans un local des Champs-Élysées, dont je ne sais pas ce que c'était, vraisemblablement un ancien cabaret, parce qu'il y avait encore plein de poussière sur les tables, on avait organisé un bal clandestin.
Un bal clandestin, oui.
Et dans la soirée, une jeune vedette de cinéma qui venait de faire un tabac à l'écran est venue se mêler aux danseurs. Comme elle m'avait vu danser, elle m'a fait savoir qu'elle aimerait bien m'avoir comme cavalier pour le concours de swing qui allait être organisé. Alors j'ai accepté, bien entendu, et nous avons été classés second.
Pas mal.
Parce qu'elle a fait un faux pas à un moment donné dont elle s'est beaucoup excusée.
Donc vous dansiez bien le swing ?
J'étais pas mal, oui.
Ah ouais.
Oui, j'étais
encore
assez...
un côté zazou, quand même.
Oui, oui. Après, je suis devenu professeur de claquettes, alors c'est vous dire.
Et puis, alors, vous avez été soutenu dans vos débuts aussi par, on va l'écouter dans un instant, par une jeune femme qui était aussi une des reines des zazous. C'est
Irène de Trébert.
De Trébert, qui était,
oui,
je crois, la compagne de Raymond Legrand à l'époque.
Absolument.
Racontez-nous votre histoire avec Irène de Trébert.
Oh, elle est
brève, mais.
Très simple et très agréable à raconter. Raymond Legrand organisait au Théâtre des Variétés tous les samedis un spectacle au profit des familles de prisonniers.
Ouais.
Alors, en première partie, c'était des amateurs et des découvertes, disait-il. Et en seconde partie, c'était naturellement son orchestre. Et dans la première partie, j'ai présenté mon numéro pour la toute première fois, les cinq Mathurins.
Ouais.
Et... Irène de Trébert était dans la salle, elle s'est entichée de notre quintette et elle allait débuter à Tabarin quelques semaines plus tard. Et elle a exigé, ce qui est extraordinaire, de messieurs Dubout et Sandrini, les directeurs du Tabarin, que ce quintette d'harmonica l'accompagne dans l'un des ballets.
Formidable.
Alors on était habillés en pirate, elle aussi. Alors elle piratait et nous ching-dac-ching-dac-ching-dac-ching-dac-ching derrière, allons-y gaiement.
Voilà. Vous évoquez d'ailleurs, Gérard de Cortance, dans votre livre aussi, la sortie du film Mademoiselle Swing avec Irène de Trébert en deux temps, puisque le film a d'abord été interdit,
oui,
à cause des paroles de la chanson.
Ah oui, il était interdit pendant six mois,
voilà.
Tout simplement parce que les paroles de la chanson disaient, au fond, nous sommes la jeunesse, nous sommes l'avenir.
Ouais.
Et ça en était trop pour l'occupant. Donc pendant six mois, on n'a pas vu le film. Et après, c'est devenu un des énormes succès. D'ailleurs, je rappelle que les salles de cinéma,
c'est d'ailleurs pas génial,
étaient combles.
Film,
ah non, c'est un très mauvais film. Mais c'était un succès, ça a été un succès phénoménal de ces années. Oui.
Mais je préfère qu'on retrouve Irène de Trébert dans une très jolie chanson qui s'appelle « Swing Rêverie ».
Je rêve dans le soir sans autre lumière que le feu qui éclaire les murs de ma maison. Sous demi-obscurité qui crée des mirages, étranges paysages d'où est née ma chanson. Swing, c'est l'ombre bleue du feu qui danse, le chant du vent dans le silence, l'appel du train qui siffle dans la nuit. Swing, c'est une image dans la glace qui tremble un instant puis s'efface devant les larmes posées par la pluie. Tant pis, l'ombre s'égare dans mon logis, reflet bizarre du feu qui fuit, au loin démarre le train qui fuit vers un autre pays. Swing, j'ai pris tous les bruits de la nuit et j'ai fait une mélodie, c'est la chanson du rythme de la vie. Par la fenêtre ouverte, les notes s'élancent et sous le ciel immense s'envole mon refrain. Il s'en ira là-bas doux et nostalgique pour promener sa musique au hasard des chemins. Swing, swing, c'est l'ombre bleue du feu qui danse, le chant du vent dans le silence, l'appel du train qui siffle dans la nuit. Swing, c'est une image dans la glace qui tremble un instant puis s'efface devant les larmes posées par la pluie. Tant pis, l'ombre s'égare dans mon logis, reflet bizarre du feu qui fuit, au loin démarre le train qui fuit vers un autre pays. Swing, j'ai pris tous les bruits de la nuit et j'ai fait une mélodie, c'est la chanson du rythme de la vie.
Irène de Trébert, ici en 1944, au mois d'avril, avec l'orchestre de Raymond Legrand. Une jolie chanson, parmi toutes celles qu'on peut retrouver aussi donc dans ce disque qui accompagne votre livre, Gérard de Cortance, et qui vient de paraître chez EPM. C'est drôle, il y a un autre point commun d'ailleurs entre tous les deux, Happy Max et Gérard de Cortance, c'est que vous avez situé votre bande de petits azous dans le 14e arrondissement, rue Gazan. Ils se retrouvent souvent dehors, à des petites terrasses, comme ça. Et vous, en 42, au moment de votre mariage, Happy Max, vous retrouviez aussi votre petite bande dans un square du 14e arrondissement.
Absolument, hein. Oui, le square de la mairie.
Voilà.
C'est là où j'ai rencontré ma première femme.
Et vous l'avez épousée pendant la guerre, d'ailleurs.
Je l'ai épousée en 42 et elle m'a immédiatement donné un enfant, puisqu'on n'avait mis pas qu'avant les rameaux. Ça a été... Et on a divorcé après.
Voilà. Ce sont les choses qui arrivent.
Ce sont les choses qui arrivent.
Le choix du 14e arrondissement, il a un sens pour vous,
Gérard? Ah oui, en tant que romancier, je voulais un lieu un peu... Je voulais situer le livre à Paris. Je voulais parler de Paris.
Évidemment. Je ne sais pas s'il y a eu des azous en province, d'ailleurs.
Un petit peu, quand même. Si,
mais c'était surtout... Dans les grandes villes. Voilà,
dans les exactement. Grandes villes aussi.
Enfin,
oui.
Disons que je voulais parler de Paris, de la guerre à Paris. Je voulais parler du 14e, parce que c'est central... Il y a eu des barricades à la fin, au moment de la libération de Paris, ouais. Donc dans différentes rues.
Avenue
donc
d'Orléans.
Ça, je voulais en parler. Exactement. Et puis, le dortoir des élèves officiers, c'était la cité universitaire. Voilà, il y a un certain nombre de points. Il y avait le parc Montsouris. Et j'ai lu beaucoup de témoignages sur l'époque, par exemple, où on disait, ce qui est formidable, c'est que tout à coup, il y a les oiseaux dans les parcs, on entend les grillons, parce qu'il faut imaginer, évidemment, il n'y avait plus personne, il n'y avait plus de circulation, il n'y avait plus rien. Et donc, il y avait une espèce de vie qui renaissait.
De nature qui renaissait dans Paris, vous le racontez très bien dans votre livre.
C'est extrêmement troublant. Ouais. C'est, hein, plus de voitures, plus de pollution, plus d'électricité.
Pas d'éclairage la nuit. Vous avez vous souvenir de Paris dans le noir, Zappi Max?
Le noir, pas complet quand même. C'était des lumières bleutées. Ouais. Ils avaient peint les becs de gaz, ou les becs électriques.
Les réverbères, en tout cas.
Enfin, les réverbères, ouais. En bleu. Bleu. Oui. Les vitres étaient peintes en bleu. Alors, il y avait une vague lueur le soir.
Il y a beaucoup d'accidents aussi, hein, dans les rues de Paris, parce que les gens se cassaient la figure, oui, parce que c'était pas éclairé.
Puis il y avait beaucoup d'attaques aussi.
Et beaucoup d'attaques, bah oui.
Beaucoup de règlements de compte.
Ah oui, c'est ça, oui. Bon, enfin, il y a un certain nombre de films d'ailleurs qui témoignent de ce Paris nocturne de la guerre. La libération, donc quand elle arrive, les azous, ils sont encore là, ils jouent un rôle, ils sont présents, ils sont.
Le service du travail obligatoire a été très destructeur la zazouterie.
Oui, c'est vrai. Oui.
Ça, c'est très important ce que vous dites, parce qu'en fait, les azous étaient devenus vraiment le poil à gratter pour les collaborateurs et pour les nazis. Et on sait, enfin, ce n'est pas uniquement ça, mais il y a une partie, en tout cas, du SCO qui a été inventée pour choper à la sortie des cinémas, des théâtres, des concerts, la jeunesse qui commençait à bouger un petit peu. Et évidemment...
Il y avait aussi le besoin de l'occupant d'avoir de la main-d'œuvre supplémentaire à
évidemment,
petit prix,
évidemment. Si j'ose dire. Mais j'ai une anecdote à raconter au sujet de l'importance, me semble-t-il, des azous. J'ai croisé Valéry Giscard d'Estaing. Ancien président de la République.
Comme et ancien Zazou, vous allez nous dire, non?
Non, mais il avait 14 ans en 40, il avait 14 ans en 40, il avait 18 ans en 44. Il a participé à la libération de
il
Paris.
Il pourrait être un de vos personnages, par sa génération.
Il me dit, monsieur de Cortance, vous êtes en train d'écrire un roman, quel en est le sujet? Alors, monsieur le président, ce sont les Zazous. Ah, me dit-il, les Zazous, vous savez, je les ai bien connus.
Très bien connus, les Zazous.
Je dis, mais monsieur le président, vous n'étiez pas vous-même Zazou, tout de même. Non, me dit-il, ils étaient trop excentriques pour moi. Mais, ajoute-t-il, et ça, c'est, je veux dire, je pourrais le mettre en bande pour faire vendre le livre, il m'a dit, mais vous savez, ils nous donnaient de l'espoir. Et je trouve que ça résume totalement ce qu'étaient les Zazou à l'époque, et ces gens qui dansaient, qui chantaient, qui continuaient de vouloir exister, qui étaient jeunes, qui se projetaient vers cet avenir, et qui résistait de cette façon-là, en voulant continuer, au fond, à aller à la terrasse des cafés, à danser, et à faire que Paris continue d'être une fête.
Mais alors, au fond, Happy Max, quand la libération est arrivée, et que vous avez commencé à chanter avec l'orchestre de Jacques Ellian, tout votre répertoire, il était aussi un petit peu dans la lignée de l'esprit Zazou. C'était des chansons joyeuses, des chansons américaines, des chansons...
C'est-à-dire que chez Jacques Ellian, c'était surtout des chansons sketch, mais enfin, dans les chansons sketch, il y avait beaucoup de chansons rythmées et, à la manière américaine.
Voilà. Et là, on vous retrouve... Alors, peut-être c'est le plus grand succès emblématique de la Libération dans Fleurs de Paris.
L'avait gardé dans son comptoir.
Le percepteur l'a conservé dans son tiroir.
Là, là aussi, même, le espoir.
Le pharmacien la dorlotait dans un bocal.
L'ex-caporal en parlait à l'ex-général.
Car c'était elle, notre idéal. C'est une fleur de Paris, du vieux Paris.
Pendant quatre ans dans nos cœurs,
elle a gardé ses couleurs. Avec l'espoir, elle a fleuri.
C'est une fleur de Paris. C'est une fleur de chez nous. Elle a fleuri de partout.
Car c'est la fleur du retour des beaux jours.
Pendant quatre ans, dans nos cœurs, elle a gardé ses couleurs. Le blanc rouge avec l'espoir, elle a fleuri, c'est une fleur de Paris.
Et c'était donc évidemment l'orchestre de Jacques Elian avec Zapimax et vos partenaires, là en l'occurrence, Francine Aubré. Et puis Charlie Bazin, vous nous avez dit...
Charlie Bazin à l'accordéon.
À l'accordéon. Et c'est devenu d'ailleurs la chanson indicatif de l'orchestre de Jacques Elian.
Très rapidement, parce que ça a fait un tel succès que Jacques Elian a dit « je garde ça comme indicatif ».
Vous l'avez fait figurer d'ailleurs finalement dans le disque sur les Zazous, cette chanson qui n'est pas tout à fait une chanson Zazou, Gérard de Cortance.
Mais... Oui, mais j'aurais aimé faire figurer aussi le chant des partisans. Enfin, vous voyez, c'est-à-dire qu'il fallait que ça soit un ensemble comme
l'époque.
Ça. L'époque.
L'ambiance
d'époque. Et donc, on ne pouvait pas ne pas mettre ça. Même si ce n'est pas vraiment Zazou, c'était indispensable.
Vos parents qui étaient un peu Zazou, ils étaient où à la Libération alors?
Alors, mon père qui était résistant en fait, était planqué je ne sais où, parce que les règlements de compte commençaient.
Ouais.
Et ma mère, alors qui était beaucoup plus jeune que mon père à l'époque, s'était saoulée la veille de la grande fête de Libération. Et elle et ses copains n'ont assisté absolument à rien.
Le grand défilé de De Gaulle.
Ils n'ont assisté à rien du tout.
Il y avait juste la gueule de bois.
Absolument.
Dites-moi, Zapimax, on a vu tout à l'heure vos débuts à l'harmonica. Là, on vous retrouve vedette chez Jacques Elian. Comment est-ce que vous êtes passé de l'un à l'autre après le STO?
Eh bien, ça s'est fait d'une façon assez bizarre. Lorsque je suis revenu avec ma permission de convalescence, car j'avais réussi à obtenir une permission de convalescence avec un doigt écrasé dans une fraiseuse, je suis donc revenu et je suis devenu professeur de claquettes pour faire bouillir ma marmite.
Voilà un métier sérieux.
Voilà. Dans ce club privé de la chanson où j'œuvrais, tous les vendredis soirs, le studio le plus important était transformé comme un genre de petit cabaret où les élèves présentaient leurs numéros, improvisés souvent. Et venait parmi les spectateurs un couple qui était Raoul André, le metteur en scène de cinéma, et sa jeune femme, Louise Carletti. Et lorsque la libération s'est terminée, j'étais dans le métro un jour, j'entends depuis le fin fond du wagon « Zappi, 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 Jacques Elian te cherche, Jacques Elian te cherche !» Je dis quoi, Jacques Elian me cherche, pourquoi mon Dieu? Et qui est Jacques Elian? Parce que je ne connaissais pas très bien le nom. Il dit « Si, si, il remonte un orchestre, façon Reventura, il cherche un chanteur fantasy, je lui ai parlé de toi, il t'attend. » Alors je suis allé aux éditions Paris Monde où Jacques avait son bureau, j'ai auditionné, trois pas de claquettes sur la moquette, pas plus, un petit coup d'harmonica, et puis une chansonnette que j'avais écrite peu de temps auparavant, qui faisait sur la cowboy, ne sait pas lire, ne sait pas écrire, etc.
Toujours la
etc.
chanson américaine.
Il m'a dit,
d'ailleurs.
Bravo, très bien, vous commencez lundi.
Et voilà comment vous êtes entré chez Jacques Elian. Un dernier point à propos de cette libération, c'est quand même assez étonnant, après tout ce qu'on a dit, on voit que finalement les musiciens adorés des Zazou, je pense par exemple à Johnny Hess ou à Raymond Legrand, au moment de la libération, de l'épuration, etc., ils n'étaient pas quand même très très bien vus, ils ont même été classés plutôt du mauvais côté. Comme ils chantaient beaucoup à Radio Paris aussi pendant la guerre.
Mais, oui, ça. Mais que fait-il qu'ils fassent?
Voilà.
En même temps, il donnait de l'espoir, comme dit Giscard d'Estaing aux gens, mais fallait bien qu'il joue de la musique. Hein, voilà. Mais c'est évident que ces orchestres aussi étaient des orchestres qui ne comportaient ni noirs, ni juifs.
Voilà, Reventura était parti et s'exilé, par exemple,
problème,
en Amérique du
voilà.
Sud.
Hein,
il y a eu des orchestres où il y avait des juifs, mais clandestins.
Alors vous savez, je suppose que vous savez mieux que moi, il y a aussi des jazzmen américains qui se sont fait passer pour des Antillais, parce que les Antillais pouvaient jouer.
Voilà, il y a d'ailleurs un personnage dans votre livre.
Oui, et c'est vrai. Ouais. Ce qui prouve quand même l'espèce de complexité de zone grise de l'époque, où il y avait un filet avec des mailles, dans des trous dans les mailles du filet.
Vous trouvez, Zappi Max, qu'on a été trop sévère pour les vedettes qui chantaient pendant la guerre et qui se produisaient sur les antennes de Radio Paris?
Pour celles qui ont une attitude, anti-française, oui.
On n'a pas été
mais
trop
pour
sévère,
ceux qui c'est... se sont contentés de faire leur métier, ben mon Dieu, fallait, ouais. Fallait... Ou alors à ce moment-là, il fallait que tous les ouvriers de chez Renault passent au comité d'épuration.
On va vous retrouver, Zappi Max. Alors on fait un saut dans le temps, mais quand même, puisque j'ai la chance de vous retrouver aujourd'hui, juste pour l'ambiance, pour l'époque, quelques années plus tard, quand vous êtes devenu la grande, l'immense vedette de Radio Luxembourg, de ses émissions ambulantes et
ça
de
vous
ses...
ennuie pas de répéter ce que vous venez de dire.
Et de ses radios crochets.
Mesdames et messieurs, voici la célèbre émission que vous attendez tous. J'ai nommé le crochet radiophonique Top. Animé par le célèbre fantaisiste Zappi Max. Avec Charlet Bazin et son accordéon. Et au piano clin, Camille Martins et sa clavioline. Je leur cède la piste et voici Zappi Max.
Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Et vous aussi, chers amis auditeurs, bonsoir. Nous voici comme chaque lundi sous le chapiteau du Radio Circus et vous allez pouvoir juger à votre tour les concurrents que chaque soir nous sélectionnons pour vous. Mais auparavant, selon la tradition, tous en chœur, avec Charlet Bazin, Camille Martins et votre serviteur, la chanson du Radio Circus, Mamselle Lotus.
Ah, quelle est belle la file de feriste du Radio Circus. Oui, c'est vraiment une très grande artiste, la file de feriste du Radio Circus. Venez voir ma belle Lotus. Venez voir
1950, Zappy Max, j'ai envie de dire au sommet de sa gloire, mais il y en a eu d'autres. Mais en tout cas, avec le Radio Circus, vous savez, Zappy Max, l'autre jour, j'ai reçu Alexis Grus dans cette émission. Et alors, je lui ai fait écouter tout ça. Il en avait presque les larmes aux yeux de cette aventure du Radio Circus ambulant avec ses émissions radiophoniques si populaires partout en France.
Moi, j'ai connu Alexis Grus actuel. Il avait 8-9 ans.
Voilà, c'est ça. C'est ce qu'il nous a raconté. Et ça, c'était le crochet radiophonique d'Op. Alors, vous faites expliquez-nous là. Oui, c'est parce que
quand j'ai débuté à Radio Luxembourg, c'était en novembre 47. J'ai débuté dans une émission qui s'appelait le jeu des gages. Ouais. Et j'étais le tueur à gages. Je m'étais intitulé le tueur à gages. Et j'arrivais près des candidats en faisant Et quand je suis passé au Radio Circus dans une toute autre émission, j'avais gardé ça pour faire une espèce de rappel, cette petite joujoute de l'époque, quoi.
Et rappelez-nous ce que c'était que la bise à Zappy.
Alors la bise à Zappy, c'est extrêmement simple. Saint Granier, qui animait le crochet radiophonique depuis déjà avant la guerre, puisque à Radio Cité, ça avait débuté, Saint Granier avait inventé l'article 12. L'article 12 d'une loi
imaginaire,
très bizarre. L'article 12 lui permettait d'embrasser les personnes du sexe faible.
Bien sûr.
Et quand j'ai commencé à animer, moi, le crochet radiophonique, puisque Saint-Gagnier avait dit « Je ne pars pas en tournée, qu'un cirque, ce n'est ni de mon âge, ni de mon sexe, ni de ma condition », on m'a confié le bébé, et les gens ont continué à réclamer l'article 12. Alors je dis « Non, l'article 12, ça appartient à Saint-Gagnier, il n'est pas question de prendre ce qui ne m'appartient pas ». Alors, j'ai dit n'importe quoi, ce qui m'est passé par la tête, j'ai dit « Moi, c'est la bise ». Et Louis Merlin, qui était mon patron à l'époque, a dit « La bise, c'est bien, la bise à Zappy, ça sera encore mieux ».
Voilà, et la formule est restée dans les mémoires. Gérard de Cortance, vous êtes content de cette rencontre avec Zappy Max ?
Ça, c'est merci.
Bon, bah, je voulais vous faire plaisir. J'espère qu'il est partagé des deux côtés de la table. Gérard de Cortance, en tout cas, bravo pour ce livre, ce roman qui est, j'ai envie de dire, qui est presque un livre d'histoire aussi. Il y a vraiment beaucoup de détails vivants sur l'époque. C'est un tableau de Paris, au fond, pendant les années de la guerre.
Chose vue, oui, ou chose entendue.
Chose vue, chose entendue. Oui, oui. C'est très réussi, ça fait revivre les Azous et en même temps, je l'ai dit, avec toute la complexité et les paradoxes.
Ça m'intéresse beaucoup, je vais demander.
Mais on va vous l'offrir.
Il est édité chez qui ?
Chez Albin Michel.
N'importe.
Et vous allez partir avec, mon cher Zappy Max.
Ah, je m'en réjouis à l'avance.
Voilà, et nous voilà malheureusement déjà sur le point de nous quitter. Je vais quand même vous demander, ce sera peut-être l'occasion de se revoir bientôt. Qu'est-ce que vous faites en ce moment, Zappy Max ?
Eh bien, je continue à écrire en puisant dans mes souvenirs.
Ah voilà, parce que vous nous avez déjà donné des livres merveilleux.
Rire et larmes de Paris... La vie de Paris, l'existence de Paris, depuis ma naissance dans le 14e arrondissement en 1921, jusqu'à peut-être passer mes 100 ans.
La transformation de Paris, donc, aussi.
Oui, tout ce que Paris a vécu, de gai, de triste, et de dramatique et de joyeux.
Ce sera fini quand ?
Oh ben, ça sera fini quand j'aurai un pied dans la tombe.
Oh non, dites pas ça, parce que je vous attends pour venir en parler très très prochainement.
Bon, ça sera fini l'année prochaine.
Bon, merci.
L'année prochaine.
Et puis Gérard de Cortance, alors vous êtes déjà en train d'écrire le suivant ?
Oui, bien sûr. Et alors le suivant, vous savez, un livre en engendre un autre. Hein.
Oui. C'est-à-dire, alors c'est Saint-Germain des Prés,
non, alors en fait, c'est les années 60.
Parce que, est-ce que les. On peut dire que les yéyés sont les enfants des Azous, non ?
Absolument.
Vous pensez ça ?
Mais absolument, bien sûr.
Enfin, sauf qu'il n'y avait pas un pouvoir aussi
alors,
dur.
Avec le pouvoir en face qui est différent, avec la consommation outrancière qui est celle des années 60, mais c'est vraiment. Ce sont les enfants des Azous, puisqu'ils se regroupent aussi autour d'une classe d'âge qui est l'adolescence, avec les vêtements, avec la musique. Pour moi, ce sont vraiment c'est le prolongement des Azous.
Bon, et bien alors, Gérard de Cortance et Zappy Max, votre place est réservée pour ces nouveaux livres. Et puis, on va se quitter avec un autre chanteur swing de l'époque. C'est l'excellent Jacques Pils dans « Elle était swing ». À bientôt, Gérard de Cortance.
À bientôt.
À bientôt, Zappy Max.
À bientôt, Benoît.
Par un beau matin de printemps, évidemment, je l'ai rencontrée simplement, évidemment, évidemment. Elle n'était pas belle, 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 elle vedotait légèrement. Elle n'avait qu'une chose pour elle, quelque chose de très étonnant. Elle était swing, 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 oh terriblement swing, swing, swing. Je la trouvais divine, je devins son amant en deux temps, trois mouvements. Elle était swing, 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 oh terriblement swing, swing, swing. Et sa lèvre mutine me plaisait follement, sans savoir ni pourquoi ni comment. Elle était un peu bizarre, pendant le jour elle dormait. Mais quel bruit, quel tatamar, dès que la nuit arrivait. Elle était swing, 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 oh terriblement swing, swing, swing. Je courais à la ruine, pendant qu'elle me chantait un petit air bien rythmé qui me plaisait. Par un beau jour de printemps, évidemment, évidemment, elle m'a présenté Armand, évidemment, évidemment. Il n'était pas beau, 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 il ne portait pas de chapeau. Il n'avait qu'une chose pour lui, quelque chose de très inédit. Il était swing, 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 oh terriblement swing, swing, swing. Il la trouva divine, il devint son amant en deux temps, trois mouvements. Il était swing, 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 oh terriblement swing, swing, swing. Il l'appelait cousine, je trouvais ça charmant, sans savoir ni pourquoi ni comment. Il avait une riche nature, mais jamais un sou de monnaie. Alors toutes ces petites factures, c'était moi qui les payais. Il était swing, 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 oh terriblement swing, swing, swing. Je faisais la cuisine, pendant qu'il lui chantait un petit air bien rythmé qui me plaisait. Par un beau soir de printemps, évidemment, évidemment, ils sont partis simplement, évidemment, évidemment. Je fuyais, mais en province, on me présenta bientôt une jeune fille blonde et mince, aux allures frais comme il faut. Pas du tout swing, 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 oh mais pas du tout swing, swing, swing. De par ses origines, arrière petit enfant des bons rois fainéants. Pas du tout swing, 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 oh mais pas du tout swing, swing, swing. Je la trouvais divine, je lui ai dit tendrement, en sachant et pourquoi et comment. Le soir de nos épousailles, j'allais chanter ma chanson. J'avais peur qu'elle ne défaille, à ma grande stupéfaction. Elle était swing, 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 oh terriblement swing, swing, swing. Alors on le devine, nous eûmes beaucoup d'enfants, et qui dansent et qui chantent tout le temps.
Jacques Pils et l'orchestre de Raymond Legrand en 1941 dans Elle était swing, une des chansons que vous pouvez retrouver donc dans le double CD Zazou qui vient de paraître chez EPM, toutes les chansons qu'on a entendues aujourd'hui ou presque, et en même temps évidemment ce CD accompagne le livre de Gérard de Cortance, mon invité aujourd'hui, qui s'intitule tout simplement Zazou et qui est paru aux éditions Albin Michel. Pour terminer l'émission aujourd'hui, pas de chroniqueur, mais une petite note de tristesse parce que deux grandes artistes lyriques nous ont quittés ces derniers jours. D'une part, Claudine Collard, qu'on écoute très souvent dans cette émission parce qu'elle a été une des grandes dames de la troupe de Radio Lyrique. Elle est morte le 15 mars à l'âge de 93 ans. Je lui rendrai bientôt hommage dans une émission un peu spéciale, certainement. Et puis, quelques jours plus tôt, ça c'est encore plus étonnant, Deva Dassi, une grande artiste de l'entre-deux-guerres qui est morte à l'âge de 104 ans. Deva Dassi, je l'aime particulièrement parce que le premier disque d'opérette que j'ai aimé, que j'ai écouté, c'était La Belle Hélène par Jules Gressier à la direction d'orchestre et Deva Dassi qui chantait le rôle d'Hélène.
Amour divin, ardente flamme, Vénus Adonis, gloire à vous, le feu brûlant, nos folles âmes, hélas, feu. Plus en nous, écoutez nos Vénus, Vénus.
Devadasi en 1952 dans une des plus belles versions de La Belle Hélène. Devadasi qui nous a quitté le 11 mars dernier à Mouriès. Elle avait l'âge étonnant de 104 ans. Devadasi qui était née donc en 1911, qui s'appelait en réalité Marianne Lambert, qui avait fait ses débuts à l'Opéra Comique où elle avait beaucoup chanté. On va l'entendre dans un instant, notamment le rôle de Mignon. Et puis elle était devenue une vraie vedette de l'entre-deux-guerres, de la vie parisienne. Il y avait même un parfum qui portait son nom. Pensez donc le Devadasi. Elle avait créé des premiers rôles au Châtelet, notamment dans l'opérette à grand spectacle Yana. Elle avait même été la maîtresse de Georges Mandel, le grand homme politique avec qui elle s'était embarquée sur le Massilia en 1940 au moment de la débâcle. Une histoire extraordinaire que celle de Devadasi, qu'on retrouve donc dans les années 50 dans cette Belle Hélène. Je ne pensais pas qu'elle existait encore quand quelqu'un, voici quelques années, m'a dit « Mais tu devrais appeler Devadasi, elle habite dans le sud de la France, elle va avoir 100 ans. » Et effectivement, à la veille de ses 100 ans, je l'avais interviewée par téléphone. Je vous propose donc d'entendre l'extrait de ce petit entretien où elle évoque sa carrière, juste après donc une page de Mignon dont elle va également nous parler.
Je le savais, c'est tout le monde.
Adassi.
Bonjour.
Écoutez, je suis très très heureux de vous entendre parce que je vais vous dire la vérité, c'est que la première fois que j'ai vraiment écouté et aimé la musique d'Offenbach, c'était grâce à votre disque, à votre interprétation de La Belle Hélène. Est-ce que vous vous rappelez cet enregistrement avec Jules Gressier, Willy Clément, Claude Devos, etc.
Bien sûr, je me souviens de cet enregistrement, c'était une chose très importante. C'était magnifique, en fait, je veux dire, on a... Parce que La Belle Hélène, je ne l'ai jamais chantée au théâtre, je n'ai fait que l'enregistrer. Hein.
Alors il faut dire, Deva Dassi, que vous êtes né en 1911, je peux me permettre de le dire.
Hein. Comment J'en suis fière.
Vous en êtes fière. Et vous êtes entrée très jeune dans la troupe de l'Opéra Comique.
Oui, on m'a auditionnée, j'avais 17 ans, et on m'a dit qu'on allait me prendre pour un second rôle, parce que après, l'année d'après, je jouerai les premiers rôles. Alors, il y avait un des directeurs de l'Opéra Comique qui voulait que j'aille au conservatoire. Il disait, elle aura son premier prix tout de suite et elle jouera les premiers rôles. Et l'autre directeur disait, non, on va lui casser la voix. Et pas question, elle va d'abord jouer, faire ses débuts dans Suzuki, Madame Butterfly, que j'ai beaucoup aimé. Et puis après, elle jouera les premiers rôles. C'est ce qui s'est passé.
Donc finalement, voilà, vous avez choisi de rester tout de suite à l'Opéra Comique.
Voilà, oui, tout de suite, oui.
Vous avez des bons souvenirs de cette troupe de la salle Favart ?
Oh oui, c'était toujours... c'était très sérieux, mais il fallait, hein, bien sûr.
Vous avez chanté aussi des œuvres comme Mignon à l'époque.
Alors j'ai chanté Mignon. J'ai été la seule qui l'a chanté à l'Opéra Comique. Du jour où j'ai chanté Mignon, plus personne n'a joué Mignon que moi, parce que j'avais aussi l'âge et le physique. Parce que à cette époque, tous les mezzos, c'était des femmes qui avaient, je dois dire, un arrière-train un peu fort.
Ah oui.
Alors quand on était mezzo, c'était des femmes de 40 ans et tout. Alors, ça n'allait pas. Moi, j'avais l'âge de Mignon, et j'avais le physique, et c'est pour ça que tous les Mignons, c'est moi qui les jouais. Même j'en étais malheureuse parce que il y avait une chanteuse qui le chantait avant moi, qui était Germaine Cernet, qui était très bien, qui avait une très jolie voix. Et j'étais gênée vis-à-vis d'elle. Mais il n'y a rien eu à faire, c'était toujours moi qu'on faisait. Et puis alors, là aussi, j'ai chanté Werther, Charlotte de Werther, et je l'ai chanté aussi à l'Opéra Comique.
Et alors, il y a une chose extraordinaire qui est arrivée quelques années plus tard, c'est que vous avez créé une opérette à grand spectacle qui a eu beaucoup de succès en 1936 au Théâtre du Châtelet. C'est la grande époque de Maurice Lehmann et ça s'appelait Yana.
Yana, voilà. J'ai encore une photographie chez moi en Yana.
Et vous chantiez le rôle principal.
Ah, oui, le rôle de Yana. Hein.
Qui est une princesse tibétaine.
Oui, et qui court tout le monde entier pour qu'on ne lui prenne pas son fils pour en faire un Dalai Lama.
C'était vraiment ce qu'on appelait le grand spectacle avec beaucoup de décors, beaucoup de tableaux.
Oui, c'était magnifique. Ça a duré un an et je venais juste d'avoir mon fils. Et on m'a à peine laissé accoucher qu'on m'a traîné sur Yana. Et alors là, je chantais encore avec plus d'amour. Je n'ai qu'un tendre amour, c'est toi, c'est toi. C'était l'air que je chantais à mon enfant sur scène.
Il faut dire que la musique était de deux grands maîtres, Henri Christinet et Tiarco Richepin.
Oui, voilà.
Vous les avez rencontrés tous les deux à ce moment-là?
Ah oui, bien sûr, ils étaient là quand on a enregistré et tout.
C'était quel genre d'homme, Christinet et Richepin?
Très bien élevé, charmant. Vous savez, quand même, dans ce monde de l'opéra comique et tout, c'était toujours des hommes quand même bien élevés et de bonne famille, quoi.
Tout ça était très correct et très...
Ah oui. Et puis, on l'était toujours avec moi.
Je reviens un tout petit peu à Yana et aux autres personnes de ce spectacle. Il y avait Wilmette et Maurice Lehmann également, bien sûr.
Oui, Maurice Lehmann. Et Maurice Lehmann, lui, ne m'aimait pas du tout.
Ah bon?
Ah non. Il a tout fait pour que je ne le joue pas.
Mais vous avez quand même eu le premier rôle.
Oui, j'ai eu quand même. Mais il ne voulait pas que ce soit moi.
Ah bon?
Ah non. Il voulait une autre à l'époque... Je crois avec qui il était très bien. Je ne me rappelle plus laquelle.
Et oui, ça se passait souvent comme ça.
Mais moi, il a fallu que les auteurs bataillent pour que ce soit moi. Hein.
Ah oui, c'était extraordinaire.
Ah oui, oh là là. En plus, il disait toujours, ça sera Roger Bourdin, il va bisser, ça va être une chose formidable et tout ça. Moi, j'étais rien. Hein. Bon, et puis, le soir de la générale, qui a bissé? Et qui sait, c'était moi avec ma petite berceuse à mon enfant.
Ah bah vous voyez, le succès voilà. est venu. Écoutez, Deva Dassi, simplement pour finir, je voudrais évoquer le fait que vous avez arrêté de chanter dans les années 50, volontairement. Hein.
Volontairement, parce que j'étais à Venise pour représenter la radio belge. Parce que j'avais chanté à la radio belge. Et à un moment, il devait envoyer quelqu'un à Venise pour le concours de la chanson. Et ils se sont tous disputés, ils voulaient tous envoyer leur chérie. Et pour finir, ils ont dit, ben, y en a une qu'on va demander à qui va partir, c'est Deva Dassi. Alors ils sont venus à Paris, ils m'ont demandé si je voulais aller à Venise. J'ai dit oui, d'accord. Alors c'est moi qui suis allée à Venise et j'ai décidé que c'était terminé, je voulais terminer en beauté. Je ne voulais pas qu'on puisse dire après, ah non, elle a plus sa belle voix, elle a plus ceci, elle a plus cela. Alors on a terminé.
Deva Dassi en 1936 au Châtelet dans Yana. Deva Dassi qui vient de nous quitter donc à l'âge étonnant de 104 ans. Elle m'a dit qu'elle était végétarienne et que c'était son secret. Vous en avez peut-être d'autres. Ainsi s'achève aujourd'hui Étonnez-moi Benoît. Je vous retrouve la semaine prochaine avec Maurice Xibéras, le directeur de l'Opéra de Marseille et du théâtre de l'Odéon de cette même ville de Marseille où l'on fait beaucoup pour l'opérette. Bon week-end à tous sur France Musique.